parler illustration et illustrateur et imaginaire, parce que comme le dit le titre de, ce, de cette table ronde, eh bien évidemment l'illustration c'est aussi de l'imaginaire, mais moi j'aimerais avant qu'on parle de votre imaginaire et de vos imaginaires, on va me mettre au pluriel, que chacun va vous nous parler un petit peu de votre parcours et de comment vous êtes arrivé là. Vous avez commencé Laurence, petit exercice de style.
Bon d'accord. Bon, excusez-moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Moi, j'ai commencé, j'ai envie de dire, comme je pense la plupart des gens, c'est-à-dire que je dessinais depuis toute petite. Et en fait, je regardais les animés, tout ça, j'aimais lire, et ça ne m'a jamais quitté, en fait, toutes ces passions, surtout le dessin. Donc, après l'école, j'ai eu un bac littéraire sur un plastique. Après, je suis partie faire les Beaux-Arts à Orléans, parce que j'habitais à Orléans. Ça ne m'a pas forcément plu parce que c'était du graphisme et ce que je voulais, moi, c'était dessiner. Donc, j'ai eu la chance de faire une école d'illustration à Lyon qui s'appelle Émile Cole, qui est une très très bonne école. Et après cette école, je suis un peu partie à l'aventure. J'ai fait des portraits chez Disney en Floride. Et après, j'ai toujours continué à dessiner. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler dans le monde du film, où on travaille souvent sur des films qui touchent à l'imaginaire. Donc voilà, je mélange illustration de l'imaginaire et des films. Voilà.
Elvire de Coq, alors qui n'était pas prévu sur ce café littéraire, mais qui remplace au pied levé Julien Delval, même exercice. D'où venez-vous?
Moi aussi, je dessinais quand j'étais petite, mais plus comme ça. Et je voulais pas du tout, enfin, j'aimais bien, ça me détendait, mais j'étais très cartésienne, et non, moi je voulais construire des ponts. Donc, donc en fait, j'ai fait l'équivalent d'une prépa de maths, et puis pour faire ingénieur. Bon, il s'est avéré en fait que c'était vraiment beaucoup trop de maths.
Ça m'aide pas tout du moment qu'on en sort, de toute façon.
Voilà, non, mais c'était bien, mais ça dépassait un niveau d'abstraction que mon cerveau permettait. Mais vraiment, j'étais attirée. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit truc en plus. Donc, au niveau artistique, après, je suis allée faire 2 ans d'architecture. Et en fait, là, il y avait toujours trop de mécanique et trop de chimie et trop de physique. Et au fur et à mesure, en fait... J'ai commencé en parallèle, j'ai découvert les mangas et je commençais à dessiner plus bande dessinée. Et pendant les 2 années d'archi, tout ce qui était projet, aspect artistique, c'était passionnant, le reste un petit peu moins. Et je dessinais en parallèle de plus en plus. Et à un bon moment, j'ai dit, voilà, enfin, c'était ça que je voulais faire, quoi. Mais à la base, je refusais, mais voilà, c'est...
Mais donc plutôt autodidacte.
Non, parce que en fait, après Archi, c'était à Bruxelles. C'est une école qui s'appelle Saint-Luc, qui a plusieurs sections. Et je suis passée en section bande dessinée, où là tout s'est bien passé. J'ai fait mes 3 ans de bande dessinée, et à la sortie, je suis allée au festival d'Angoulême avec mon book, et j'ai eu la chance. Enfin, il y a une rencontre qui s'est faite avec les humanoïdes associés, et là j'ai décroché un projet BD. Et donc j'ai pu me lancer assez vite là-dedans, voilà.
Bah, Fabien a fait le même exercice alors.
Moi j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un bac art appliqué. Techniquement ça devait être F12, maintenant c'était AA, enfin bref on s'en fiche. À la base je dessinais pas mal et je me suis dit tiens dessin c'est bien, en plus c'est un truc de feignant donc...
Ce qui s'est avéré totalement vrai par la suite.
Oui, exactement. Et donc, j'avais des bonnes ententes de dessin, donc j'ai fait ça. Donc, j'ai passé les concours pour le lycée en art appliqué à Sèvres, ce qui m'a ouvert surtout d'autres perspectives, parce qu'on touche à tout là-dedans, autant design, archi. J'ai fait de la tapisserie, j'ai fait. Voilà, puis je suis tombé sur l'infographie qui m'a orienté infographie photo, le bac qui va avec. Et puis après, j'ai fait une année de cinéma à la fac qui m'a pas plu parce que. Une histoire de prof qui vous explique ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais on va pouvoir réfléchir, enfin bref. Et puis ensuite, il a fallu faire le service militaire, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc de fil en aiguille, j'ai arrêté mes études, puis j'ai repris après en graphisme, parce que c'était le domaine le plus proche pour avoir un boulot et rester dans le domaine graphique, quoi. Et tout à fait en parallèle, depuis l'âge de 9 ans, je fais du jeu de rôle. En termes d'imaginaire, ça compte vachement. Et quand on fait du jeu de rôle, on dessine aussi beaucoup, et tout ça mêlé fait que j'ai commencé à faire des couvertures et puis de fil en aiguille, voilà, maintenant je fais des albums.
Et puis on va finir ce tour de table avec Hervé Leblanc, qui est l'auteur de l'affiche du Festival des Imaginaires cette année. On va pas en parler trop de cette affiche dans ce Café Littéraire-là, parce qu'il y en a un demain matin qui lui sera entièrement consacré, donc on va pas trop dévoiler de choses là-dessus. Mais par contre, même question, quel parcours pour en arriver là, Hervé?
Alors, il marche pas non plus, donc je peux
pas
faire ça.
Non, si,
il marche. Il faut le coller contre. Voilà. Donc, parcours, sans surprise, hein, formation Beaux-Arts, toujours plus ou moins dans les mêmes optiques, c'est-à-dire parvenir à faire de la bande dessinée, s'exprimer grâce au dessin. Donc je fais mes années Beaux-Arts avec le rêve de faire de la bande dessinée au bout du compte. Finalement, je n'en ai jamais fait.
Ça viendra.
Mais c'est au programme, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un long chantier même, donc finalement les choses se font. Donc moi je suis sorti du Beaux-Arts à l'époque, parce que oui, puisqu'on a déjà un certain âge. À l'époque, ce qui s'offrait à nous en sortant des Beaux-Arts, c'était un peu plonger directement dans la publicité. On pouvait espérer faire un petit dessin à droite à gauche. Donc je me suis essayé, puis sans trop de conviction, j'ai commencé à chercher ailleurs. Et puis, en fait, ce profil est le dessin animé qui, à l'époque, prenait de l'ampleur de plus en plus. Donc, j'ai tenté ma chance. Je suis allé voir, à l'époque, Walt Disney à Paris, qui avait un studio de séries télé. Donc, j'ai passé un test qui n'a pas été concluant de toute évidence, puisque... Je ne me suis pas fait offrir de poste, mais ceci dit, les gens qui étaient donc dans le département dans lequel je postulais, au décor, donc, eux étaient convaincus que j'avais ma place dans le domaine du dessin animé et m'ont glissé une petite adresse sur un petit bout de papier. Et puis, tout simplement, j'ai écrit à cette adresse sans trop savoir où c'était. J'étais encore un peu innocent, on va dire. Et là, donc c'était en Angleterre, et puis ça l'a fait, bingo, j'ai mis un coup de téléphone, c'était Amblimation, le studio de Steven Spielberg qui m'appelait. Donc je suis parti, sans trop savoir non plus où je partais. Hein. Ça je l'ai découvert qu'après, que c'était Steven Spielberg.
C'est les gens de Disney qui vous ont filé le numéro de
Spielberg? Oui. Enfin, pas de Spielberg.
Il vous aimait pas à ce point-là?
Non, mais c'était pas Spielberg en personne, que les choses soient claires. C'était le studio que lui avait ouvert... Donc je suis parti, et il n'y a qu'une fois, une fois dans les locaux que j'ai compris où j'étais. Donc tout était très bien pour moi. J'ai appris le métier dans ce studio. Et puis il était évident que par la suite, le fait de venir de Amblimation, ça m'ouvrait plus facilement les portes. Et ça m'a permis de faire mon chemin. Et puis par la suite, je suis retourné à la Warner Bros. Et donc, en fait, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur des productions financées par les Américains, donc des grosses productions, où justement la notion de travail, elle est en proportion du budget, c'est-à-dire des gros plans, des grosses choses comme ça. Donc, ce qui a un peu profilé ma carrière depuis, en fait. C'est-à-dire, je sais plus faire petit maintenant. Il faut dire qu'aussi, à l'époque des Beaux-Arts, pour se faire la pièce, il était courant qu'on fasse des fresques. Je me rappelle avec un copain, on avait fait une fresque qui faisait 100 mètres de long, donc le ton était donné, quoi. Et puis, alors, bon, ça va un temps, et puis malgré tout, toujours sur le côté de l'esprit, reste cette idée de la bande dessinée, parce que c'était quand même le rêve numéro un à réaliser, la bande dessinée et les couvertures de science-fiction, puisque à l'époque c'était Frazetta qui menait la danse, et donc il nous faisait rêver tous, et moi aussi je veux, et puis ça a été mis de côté, et puis voilà que finalement dernièrement les éditeurs de SF m'ont contacté, et le rêve devient réalité, voilà.
Alors là on était dans la réalité, maintenant on va partir dans l'imaginaire avec vous quatre, parce que vous faites aussi partie intégrante par vos illustrations du travail d'imaginaire des auteurs ou même de votre travail en propre. Moi, je voulais savoir justement comment bah, vous travaillez sur un projet, lorsqu'il s'agit par exemple de faire une couverture, comment ça se passe finalement? On vous demande. Qui veut s'y coller?
Enfin, je m'y colle. Pour une couverture, ça dépend en fait des éditeurs. En l'occurrence, j'ai eu la chance d'être assez libre jusqu'à présent. On me donne soit un extrait du livre, soit un résumé du livre, soit le livre, mais au début on paraît avec plein de bonnes intentions de lire tous les romans, en fait on se rend compte que c'est pas possible.
C'est une des questions que je voulais poser, parce que c'est vrai qu'on imagine du coup qu'on se retrouve obligé quand même aussi de rentrer dans l'univers de l'auteur.
Bah c'est au début, je parle vraiment que pour moi, au début on fonctionne comme ça. Mais après je pars du principe qu'une image doit elle-même raconter une histoire. Donc si elle part un peu en parallèle du livre, elle raconte presque une autre histoire, où elle fait un lien, où elle fait un plus, enfin il y a quelque chose qui se passe, et pour moi l'image doit vivre toute seule, donc à partir de là on la construit aussi un peu comme ça.
Donc avec... c'est l'univers ou l'imaginaire de Flavien Fernandez qu'on voit d'abord?
J'imagine que chaque illustrateur a sa touche personnelle dans son style, hein, ça c'est évident, mais je ne peux pas non plus me permettre de coller mon univers sur un livre, parce que ça ne se fait pas éthiquement, je dirais, c'est aussi à la base le roman de l'auteur, si on parle d'un roman. Mais
concrètement, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a un vade-mecum, il y a des... On a des pistes, on a des règles à respecter.
On va avoir des contraintes techniques, le format, la maquette, c'est-à-dire que souvent le public va voir une maquette montée avec un titre et tout ça, et l'image va être aussi peut-être un peu déséquilibrée visuellement, sans le titre, sans la charte graphique et ce genre de choses, mais on doit la penser complète. Donc déjà, ces contraintes techniques... sont là. Après, on m'a imposé, si c'est au niveau des médiums, qu'on peut avoir quelques contraintes. Si des gens veulent des choses peut-être plus informatiques, entre guillemets, ou plus matérées, picturales, mais après, ça dépend tellement des éditeurs et des liens aussi qu'ils peuvent avoir avec leur auteur.
Elvire ?
Moi, les couvertures que j'ai faites, donc, par exemple pour la bande dessinée, il faut savoir, enfin, en bande dessinée, on est assez peu maître de sa couverture. Bon, après, le contenu, les planches et tout, ça c'est. Voilà, mais au niveau de. Parce qu'il y a souvent aussi des lignes éditoriales, un petit peu des styles à respecter, et souvent aussi, bon, bah, la réalité du truc, c'est que. Les commerciaux, il faut qu'elles plaisent aux commerciaux pour que les commerciaux...
que ça soit vendeur.
Voilà, que ce soit vendeur. Donc, des fois, on se retrouve, en bande dessinée, à faire des couvertures. Je sais que pour le tome 2, par exemple, Tirzanog, on en a fait une première qui me plaisait beaucoup. Et puis, quand elle est passée chez les commerciaux ont dit « Non, mais c'est pas assez ciblé, on comprend pas l'intention et tout ça. » Donc, on a dû la recommencer. La seconde me plaît bien, mais j'avais une petite préférence pour la première. Après,
parce que la difficulté, c'est que finalement, vous, comme on disait avec Fabien, vous connaissez ce qu'il y a à l'intérieur du livre, alors que la personne qui vient l'acheter, par définition,
voilà, c'est ça,
il n'a pas encore lu.
Voilà, c'est comme dit, je suis assez d'accord avec Fabien pour dire que la couverture doit être autonome, mais elle doit quand même être assez punchy. Et
donner envie de lire ce qu'il y a.
Voilà, et avoir un petit truc en plus pour que les gens aillent plutôt vers celle-ci plutôt qu'une autre, quoi. Après, moi, je sais que j'aime vraiment énormément travailler avec beaucoup de contraintes. Et quand je vais faire un travail de couverture ou justement, quand on me dit « laisse parler ton imaginaire », je sais que ça ne va pas bien se passer. parce que en fait, la personne qu'on a en face a toujours quand même une idée en tête. Et il vaut mieux essayer de vraiment... Enfin, pour moi, je préfère... essayer de la presser comme un citron pour qu'elle me donne le plus de contraintes, quitte à faire des choix après et à mettre les choses à ma sauce. Parce que moi je trouve que les contraintes c'est quelque chose qui me porte, parce que c'est quelque chose qui va nous faire sortir justement un petit peu. On a tous des tics de dessin, des choses qu'on aime bien, peut-être même des choses qu'on aime trop et qu'on a tendance à des fois un petit peu à recycler d'une certaine manière. Tandis que quand on dit « Ah non, non, là il faut comme ça, il faut se dégager ci » ou ben, « Là je le fais parce que je m'en rends compte parce que j'ai fait par exemple de la jeunesse, j'ai fait des couvertures, de la bande dessinée, là je travaille avec Fabien sur un jeu de rôle, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le même public. » Donc quelque chose qui va parler en illustration fantasy, pas assez. Il faut un truc un peu qui fasse vraiment fantasy, parce que un bouquin doit être pas tellement reconnaissable. Il faut qu'on identifie directement aussi de quoi ça parle. Une couve SF sera pas. Enfin, il faut qu'on sente que c'est de la SF, il faut qu'on sente que c'est de la fantasy. Donc déjà l'imaginaire. La partie de l'imaginaire, le genre.
Que les lecteurs se reconnaissent dans les codes qui vont être développés.
Voilà,
aussi.
Il y a des codes qu'on est obligé de respecter. Après, le truc qui est amusant, c'est justement de ces codes-là, de les détourner pour les mettre un petit peu à nos sauces et faire un boulot qui nous plaît quand même et qui reste personnel. Quoi.
Hervé ou Laurence, sur cette question de la couverture ?
Alors, la couverture, oui. C'est toujours une question que je me pose quand on m'en demande d'ailleurs. Comment je vais faire ?
C'est pareil en lisant le livre ou pas forcément ou,
non, forcément. En fait, donc c'est un peu ce que disait Fabien, en soi, soit un extrait ou une ligne de conduite, en fait. Alors, soit on capte tout de suite le message et puis, bon, bah, ça y est, on a une image, puis on commence à creuser. Ou alors, comme récemment, j'ai eu donc une petite ligne comme ça, et là, j'avais du mal à rentrer dedans, donc j'ai carrément demandé le bouquin. Éditeur pour le lire en diagonale, parce qu'on n'a jamais vraiment tout le temps de lire les livres en entier. Donc ça, c'était assez exceptionnel, parce que généralement, je fonctionne bien avec mes quelques lignes. Parce que, de toute façon, on fonctionne toujours selon des stéréotypes science-fiction, donc ça va être souvent soit un vaisseau spatial dans l'espace, si c'est de l'horreur fantasy, c'est du KPDP, enfin, donc, on s'y retrouve toujours. On peut pas être, enfin, on peut, là, pas à mettre des frontières, mais généralement on n'invente pas trop sur une couverture, on réinvente constamment en fait, mais c'est rare quand je vois une couverture qui est franchement innovatrice.
Mais est-ce qu'on a une patte quand on est illustrateur?
Ah oui, oui, complètement, oui. Ben, on fonctionne avec ses propres codes. On peut donner la même commande à 15 illustrateurs, on aura 15 couvertures différentes, c'est clair.
On voit avec les affiches du festival qu'on peut voir en arrivant,
par exemple.
On a des univers avec, je pense, en plus des choses qu'on vous a demandé de manière assez précise.
Alors pour l'affiche, ça pourrait être une couverture en fait, un bon exemple. Tout le monde sait de quoi on parle. On m'a dit...
Elle est là.
Bon, pas après. Qu'est-ce qu'on m'avait dit
Faut le château, je crois. Hein. C'est un
alors, il y avait
truc
le château.
Qui est
le château, c'est imposé, en effet. Donc, faut le glisser dans l'image. On m'a dit qu'il faut qu'il y ait des petites choses un petit peu partout. C'est-à-dire, bon, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait des petites choses un peu partout parce que ça va être décliné sous différentes formes. Ça peut être des programmes,
des marquages,
des cartes postales, des affiches. Le visuel en soi, qui lui-même va être exploité des fois pleinement, il faut que ce soit accueillant, il faut que... qu'est-ce qu'on va dire encore
Une scène de massacre, par exemple, dans l'affiche, c'est pas...
Ça n'aurait pas fait... C'est pas l'envie qui manque, mais disons que ça va pas donner envie aux gens de venir se faire massacrer. Donc, voilà, il faut que ce soit très positif, très accueillant, très presque doux, à la limite. Alors... Le problème d'une affiche comme les imaginales, c'est que vu que c'est de l'imaginaire, alors moi je fonctionne comme ça, je ne sais pas comment serait un autre illustrateur, mais pour moi l'imaginaire, tout de suite, on tombe dans du clair-obscur, dans du mystérieux, dans quelque chose qui interroge déjà. Hein, et un gros point d'interrogation, et bizarrement, alors c'est peut-être ma manière à moi, ça passe par le clair-obscur. C'est-à-dire on est dans de la pénombre, et puis il y a un point de lumière quelque part. Et voilà, c'est l'imaginaire qui se met en marche. Pour moi, ça marche bien comme ça. Quoi.
Et puis, il faut dire, il y a un truc assez amusant, c'est que vous avez fait apparaître des montgolfières et des ballons. Il se trouve que ce week-end à Épinal, ce
sont oui, les oui, alors ça, c'est le heureux.
Mais vous ne saviez pas du tout.
Non, c'est le heureux hasard. Ça, c'est tombé vraiment pile poil, comme quoi vous voyez.
Donc, les montgolfières qu'on va voir ce week-end, c'est pas pour vous rendre hommage. Hein,
non, pas du tout. C'est de l'heureux hasard, hein, comme ça arrive de temps en temps. Donc voilà, puis après, bon, bah, faut partir, hein, puis on fait son chemin. Alors, au château, je vais me bâtir, voilà, puis moi, ben, je veux voir loin, j'aime voir loin, donc il faut que j'ouvre l'horizon, il faut que ce soit imaginaire dans un petit peu fantastique, il faut que je trouve quelque chose de fantastique dans la formule. Donc je trouve ces animaux volants. Alors je ne veux pas de dragon, là je suis catégorique. Pourquoi ? Parce que justement, encore un poncif qu'on a vu, revu, donc j'en veux pas. Pourtant je veux un truc qui vole. Donc voilà, je cherche. Tiens, les rhinocéros, c'est sympa ça. Puis une corne sur le nez, et puis oui, mais il faut que je revoie l'anatomie du bestiau si je veux qu'il vole. Enfin voilà, il y a tout un cheminement qui se fait petit à petit. J'ai mon horizon, et puis je commence à articuler tout ça, et puis voilà quoi, petit à petit c'est une couleur qui en amène une autre, une forme qui en amène une autre, mais il y a de la bagarre, hein, c'est dessinateur, enfin j'ai entendu ça tout à l'heure, il me fait bondir à chaque fois, c'est pas un métier de fainéant, c'est un métier qui est très dur, faut pas se leurrer. Alors évidemment c'est tentant, on a l'impression, on voit toujours à la télé ce dessinateur qui prend le crayon, qui fait glisser ça sur la feuille, ça va tout seul. Moi-même, ça m'épate à chaque fois. C'est soit quelqu'un qui a dessiné toujours la même chose pendant des années en faisant de la bande dessinée, donc pourquoi pas.
Ou de la caricature, parce que c'est vrai que c'est...
Ou de la caricature, mais il faut relativiser. Enfin, pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment plancher, se torturer pour arriver à sortir des choses.
Je ne sais pas si l'auteur, parce que Elvire nous a parlé des commerciaux et de l'éditeur, mais l'auteur, il a son mot à dire sur la couverture du livre.
Bah oui, bien sûr, il arrive, mais quand même avec plusieurs idées et tout. Après, ça dépend aussi beaucoup de la structure dans laquelle on l'a fait. Si on connaît déjà l'auteur, si on connaît un petit peu l'éditeur, si on a été choisi pour son travail aussi, parce que, enfin, il y a deux cas de figure aussi. C'est des fois quelqu'un a un flash sur le dessin de quelqu'un. Donc c'est vrai que là, à la base, on veut kiffer, quoi. Donc là, la carte blanche. Des fois, on est un petit peu dans.
Parce que concrètement, vous travaillez comme en freelance ou vous êtes rattaché à des maisons d'édition ?
Non. Bah, on est freelance. On travaille avec. Qui veut bien travailler avec nous.
M'en parlez pas, je sais ce que
c'est. Voilà, et après, bon, bah, il faut démarcher, il faut envoyer des books. Mais moi, je sais, par exemple, que je vais envoyer certains types d'illustrations chez certains éditeurs, et d'autres, ça vaut même pas le coup de les envoyer, parce que je vois bien ce qu'ils sortent, donc je sais que j'ai pas le style pour travailler avec eux. Donc on essaye quand même un petit peu de cibler... On peut être un petit peu élastique sur son style, aller un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais on ne peut pas faire le grand écart non plus, quoi. Donc il faut...
Il faut quand même assumer les couvertures qu'on fait.
Voilà. Donc, mais c'est... Moi, pour le moment, aussi un peu comme Fabien, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des gens que je connaissais, qui avaient vraiment flashé sur mon dessin, donc je n'ai pas encore été soumise... grand drame, voilà.
La tyrannie éditoriale.
Voilà.
Laurence, le travail avec les auteurs, ça se passe comment ?
Moi, c'est un petit peu spécial parce que j'ai quasiment pas été éditée, en fait. J'ai toujours aimé dessiner, illustrer, tout ça, peindre. Alors, je m'auto-publie, on va dire. Mais là, récemment, j'ai travaillé avec un écrivain américain qui avait flashé sur mon style, donc il voulait absolument... Alors ce garçon-là, je l'avais rencontré lors d'une séance de dédicace pour l'écrivain. On attendait sous la pluie pour avoir une dédicace de Neil Gaiman, parce qu'on est tous très passionnés de Neil Gaiman, enfin tous les deux en tout cas. Et du coup, il a, en discutant et tout, je lui avais montré mes dessins, tout ça, parce qu'il se trouvait que j'en avais quelques-uns sur moi, j'ai toujours un petit book. Et donc, quelques mois plus tard, il a fini d'écrire son poème, donc j'illustre un poème, et lui m'a laissé extrêmement libre, parce que justement, c'était vraiment mon dessin qui lui plaisait, donc il m'a dit, voilà, j'ai écrit ça, est-ce que ça t'inspire ? Voilà.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit sur la couverture vos deux noms finalement.
Oui.
Aussi, enfin voilà, ouais, la même taille, ouais, la
tout
même importance.
Ça a vraiment été un travail... d'un quatre mains, quoi. Hein. Il a écrit, et moi j'ai illustré, et après, bon, bah, je lui ai envoyé quand même de temps en temps les dessins. Il n'était pas compliqué. C'est, oh, c'est super beau, vas-y, continue. Oh, et puis tu m'enverras le truc fini, comme ça j'aurai la surprise.
Ah, c'est un bonheur de travailler comme ça.
Ah, oui, oui. Et puis bah, là, récemment, je vais peut-être plus tard être publiée. J'ai fait un salon de BD et j'ai été remarquée par une scénariste qui travaille dans une maison d'édition. C'est Dupuis, c'est une bonne maison d'édition, je crois. C'est Alexine, voilà, que tu connais à lire. Et donc, ben, j'ai eu la chance que cette scénariste ait flashé sur mon dessin. Et là, le lendemain, elle m'a envoyé un scénario et on va commencer à construire quelque chose toutes les deux, quoi. Donc, voilà. Et là, c'est vrai que quelque part, je rejoins Elvire dans le sens où j'ai besoin de. Alors, même si par exemple, pour le projet avec Kevin Joseph, j'étais très libre. J'ai quand même besoin de rentrer dans les choses, c'est-à-dire qu'avec cette scénariste, on va se rencontrer parce que j'aimerais vraiment, on sent que son personnage principal lui tient à cœur et j'ai vraiment envie qu'elle m'en parle pour que je fasse des croquis, enfin j'aimerais vraiment...
Pour que son personnage ressemble à ce qu'elle a imaginé.
C'est ça. Et moi ce que je fais beaucoup, c'est quand je lis un livre, parce que je lis beaucoup, surtout des romans de fantasy, historiques aussi, mais surtout de la fantasy, j'aime dessiner les personnages tels que je les imagine, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. C'est d'ailleurs le principe d'un de mes livres où j'écris un petit résumé du livre en question et il y a beaucoup de croquis. Et là, par exemple, j'ai l'extrême bonheur de voir qu'aux Imaginales, il y avait Trudy Canavan qui était invité. Et j'ai découvert ses livres il y a quelques années et j'étais mais comme une dingue en lisant ses livres, quoi. Combien de fois j'ai loupé l'arrêt de bus, la station de métro et tout. Enfin, une fois, je me suis même retrouvée très loin en disant mais ouais, je ne décrochais pas du livre. Et là, j'ai eu le plaisir de lui montrer les croquis que je faisais de ces personnages. Donc c'est un partage qui est intéressant, quoi. Voilà.
Alors là, on a parlé de ce qui se voit vraiment au premier abord, c'est-à-dire les couvertures. Mais illustrateur, c'est aussi à l'intérieur des livres parfois. Là aussi, est-ce que c'est un travail différent de celui d'illustrateur pour une couverture ? C'est autre chose ?
En intérieur, c'est totalement différent.
Il faut vraiment coller à l'univers, là, pour le coup ?
C'est très spécifique. Moi, j'ai deux catégories, c'est-à-dire le jeu de rôle, où là, on va illustrer plutôt un univers ou des archétypes de cet univers. Et donc, là, ce qui est intéressant, justement, c'est du coup qu'on participe à la création de l'univers. On met des visuels sur ce que les gens attendent. Donc, il y a vraiment des choix, j'ai presque stratégiques à faire. C'est vraiment très enrichissant.
Dans les formes, dans les couleurs ?
Dans les formes, dans le style aussi employé. Si là, pour vous donner un exemple, j'ai illustré un jeu de rôle sur les années 70, où j'avais donc un tracé très contrasté, une ligne assez claire, forte, qui faisait ressortir des personnages très réalistes. Je vais continuer sur un autre jeu qui va plus parler un thème un peu genre barbare, préhistoire. Je vais plutôt m'armer d'un fusain et de ce genre de choses pour donner...
avec un trait plus épais.
Voilà, pour coller à l'univers et enrichir. Et le deuxième exemple, je dirais, c'est tout à fait autre chose, c'est l'album jeunesse. Où là, il y a plusieurs cas de figure. On va illustrer des... c'est un peu comme la couverture en fait, quelque part. C'est comme si on multipliait la couverture, puisque c'est souvent des morceaux de texte qu'on illustre ou qu'on accompagne suivant les histoires et puis les relations avec l'auteur, ce genre de choses. Et l'autre expérience, donc là sur un album que j'ai fait tout seul mais sans texte, qui était une autre contrainte. Parce que comme disait Elvire, ce qui est intéressant, c'est les contraintes, parce que sinon on fait de la peinture tout seul dans son coin et on s'éclate, mais c'est totalement autre chose. Et les contraintes sont ce qui donne un petit peu le défi, justement repousser un peu nos limites. Et donc là, il y avait donc une histoire que j'ai dû transformer en storyboard et pour que ce soit lisible sans texte. Et à partir de là, c'était un challenge et c'est une autre forme d'illustration. Et donc, pour revenir sur le sujet de l'imaginaire et donc renvoyer la balle à Hervé, parce que c'est loin d'être un boulot de feignant, je plaisantais dans mon début.
Mais justement, bon, on a quand même l'impression que votre imaginaire, c'est vrai, il existe. Mais il est quand même très contraint, finalement. Fabien, vous le disiez, si vraiment vous exercez votre, votre imaginaire à temps plein, ça fait une exposition plus qu'un livre, en fait.
En fait, l'illustration a quand même pour but final, c'est d'être publié. Donc il y a, on va dire, une ligne qui est commerciale. Si, si on ne correspond pas à cette contrainte, on reste dans son coin et puis on dessine sur son carnet et c'est tout à fait autre chose, c'est tout. À partir du moment où il y a une finalité, qui est une publication, quelle que soit la forme de publication, hein, à partir de là, on a des contraintes, on doit répondre à des contraintes techniques ou stratégiques ou tout autre. Mais c'est ce qui fait l'intérêt, en fait, de, d'être illustrateur, enfin, selon moi.
Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le premier contact qu'on a finalement avec un livre, souvent, votre travail. C'est ce qui va aussi parfois, parce qu'évidemment, de temps en temps, on sait ce qu'on vient chercher, mais d'autres fois, on va flâner, puis on va avoir l'œil qui va être accroché par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent votre travail, finalement.
Alors, oui, en fait, on est, je dirais, quelque part, le premier argument de vente, ce qui est, d'un point de vue financier, éditorial, presque un paradoxe, dans la mesure où... Il faut quand même aborder le sujet qui est financier par rapport à la masse de travail et qui n'est pas vu non plus, parce que ce n'est qu'une page parmi, parmi 500 du livre. Donc... au niveau de la charge de travail, pas que l'auteur ne travaille pas, mais au niveau de l'éditeur, vu qu'on est la première accroche, on pourrait estimer qu'on a une certaine importance, en fait. Et suivant les éditeurs, on se retrouve à avoir une grande importance, ou alors pas du tout, parce qu'on va être une image parmi tant d'autres, et cette relation, justement, au premier contact est assez intéressante, puisqu'en fait, on m'a souvent posé la question, et il n'y a pas de réponse toute faite, sur est-ce que c'est parce que l'image est là qu'on va acheter le bouquin ou est-ce que c'est parce que c'est l'auteur qui est connu, enfin,
il faudrait que les éditeurs aient sur du blog un peu parce qu'ils se rendraient compte à quel point la couverture a de l'importance, hein. Il y a beaucoup de blogs où ça débat beaucoup et où il y a des livres dont on dit ah mais c'est la couverture qui m'a donné envie de l'acheter et puis après j'ai adoré le livre et puis d'autres ont dit ouais, le livre était génial mais c'est dommage que la couverture soit aussi moche.
Mais on est un petit peu pour les couvertures effectivement ouais. Couvertures qui sont terribles, qui sont nombreuses, mais elles font partie du genre. Par exemple, bon, après, moi je suis pas trop fan de toute la nouvelle mouvance là, qui arrive des photos retravaillées, enfin l'illustration photographique retouchée, tout ça, enfin toutes les couvertures américaines qui sont reprises, mais c'est une réalité éditoriale. Ce type de couverture, par exemple, on prend ce qui est la Bitlit, s'il n'y a pas une couverture comme ça sur le bouquin n'est pas identifié par le public qui est censé l'acheter. Donc ça c'est une réalité et c'est comme ça. Et bien sûr que moi j'adorerais faire une couverture de roman avec des vampires, des trucs comme ça, mais je ne suis pas sûre que en fait la couverture remplirait son rôle. Enfin. Oui, mais peut-être pas forcément dans
elle remplirait un rôle artistique, mais elle ne remplirait pas son rôle économique.
Voilà. Et c'est tout ce qui est difficile dans la couverture, c'est justement, c'est toujours un petit peu entre les deux. On est souvent beaucoup plus libre à l'intérieur de l'album lui-même que sur la couverture. Et c'est vrai que moi, je pars du principe où si vraiment on m'a foutu une paix royale pendant tout l'album, la réalisation de l'intérieur. Si on m'en kikine pour la couverture, bon, c'est de bonne guerre, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a quelqu'un qui veut quelque chose de particulier en tête, le truc, c'est aussi d'être un petit peu, de devenir un petit peu en guise nous-mêmes en disant qu'est-ce que je veux pouvoir faire pour que ça me plaise à moi et que ça le plaise à lui. Et pour que je reste quand même honnête et sincère avec moi, sans pour autant lâcher l'affaire et faire un truc où quand on va me demander mon nom, je vais sortir de mon enveloppe à pseudonyme un des cinq. voilà. Mais bon, après, c'est aussi, pour revenir un petit peu sur ce que Fabien disait, à l'intérieur, c'est encore différent, parce que bon, il y a soit le cas de figure du livre illustré avec... On demande à la, l'illustration d'être très belle s'il y a du texte. Le livre jeunesse où l'illustration doit avoir un vrai rôle narratif. Donc c'est-à-dire qu'elle se rapporte à un texte, mais quand même quand on feuillette le livre, on doit déjà un petit peu comprendre l'histoire. Donc là, ça va être plus de l'imaginaire, mais déjà narratif. Et quant à la BD, alors là, la BD, de toute façon, c'est un truc complètement à part. Je crois que, pour en avoir fait, c'est vraiment le truc le plus difficile, quoi. Donc là, pour le coup, après un an sur un album, si ça a été un peu difficile, on est vraiment à ramasser à la petite cuillère, quoi. Mais parce que dans le cas de la bande dessinée, on reçoit un scénario, et là, par contre, on s'approprie complètement l'univers d'un scénariste, parce que voilà, il faut y mettre sa patte, parce qu'on doit faire des trucs. Alors il y a des discussions, le perso plus comme si, le décor comme ça, mais là on est dans la bande dessinée, on est réalisateur, décorateur, et pour peu qu'en plus on en fasse une tout seule, quoi, donc où on a son univers, et là on va pouvoir exprimer vraiment ces trucs à soi, voilà.
Mais on s'engage à soi-même.
Voilà, c'est encore plus difficile. Là, il faut même carrément séparer dans sa tête sa partie scénariste, dialoguiste, comme si finalement on allait écrire un scénario pour... comme si un hémisphère du cerveau allait écrire un scénario pour l'autre hémisphère, quoi. Il faut un petit peu scinder voilà. Mais après, la bande dessinée, c'est... Enfin, il y a tellement de trucs à faire, les décors, les personnages... Voilà, mais par contre c'est un boulot très solitaire et très difficile, parce que pour le coup on n'a vraiment pas de collègues, et ça dure de 8 à un an sur de 8 mois à un an sur un album, et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles, quoi.
Hervé, puisque justement le rêve c'est d'aller vers la BD. T'es couragé, hein, non, tu
couilles, en fait.
Voilà,
non,
mais c'est dégoûté. Voilà. C'est super.
Je dirais même qu'elle est... À la mesure du projet qu'on entame, je dirais, c'est très bien ce qu'elle dit, je dirais même que c'est en dessous de la réalité. C'est la BD, enfin, de tout ce que j'ai pu faire, et j'en ai fait des choses, de la peinture, enfin, je crois que j'ai goûté un peu à tout ce qui était forme graphique, peinture, enfin, tout ça, j'ai vraiment débroussaillé dans tous les coins. Et la bande dessinée reste la chose qui est la plus dure de loin, parce qu'elle est hyper exigeante. À tout point de vue, ça va. L'exigence est dans le trait, l'exigence est dans le cadrage, l'exigence est dans l'émotion, l'exigence est dans le mot, l'exigence est partout, tout ce qu'on touche. Et on sait très bien que si on ne répond pas à cette exigence-là, on peut faire des tas de BD qui ne répondent pas à ces exigences-là, mais voilà, il faut qu'elles soient imprimées, et puis elles passent sur les étalages, on ne les remarque pas. Une vraie bande dessinée qui a une vraie histoire, avec une vraie intensité, un vrai scénario, un vrai univers, souvent le dessinateur est de ce monde. Parce que c'est colossal, en effet. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que c'est la grosse surprise en même temps, mais comme je dis, mon rêve, justement, c'est de l'ordre du rêve, et je tiens à me préserver dans l'ordre du rêve, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas répondre à des contraintes commerciales. Ça reste un pur plaisir, donc je prends sur moi, je le fais dans mes temps libres, et ça fait 10 ans que c'est commencé.
Ah oui, quand même. On est loin de l'année.
La différence, c'est que je n'en vis pas.
Oui.
C'est quelque chose que je fais en parallèle, qui petit à petit, brique par brique, c'est l'histoire du facteur cheval, je crois, qui se promène et qui ramène des petites choses. Bon, moi j'en suis là, je veux que ça reste le domaine du rêve. Je me fiche déjà aujourd'hui de ce que va penser l'éditeur. Je suis assez catégorique à ce niveau-là. C'est quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Voilà. Il n'y a aucune contrainte. Si je veux gagner de l'argent maintenant, je vais aller gagner de l'argent, je vais aller rentrer dans des contraintes. La bande dessinée, aussi petit que j'étais, c'était mon rêve. Je n'ai jamais pu le faire parce que la vie essaye toujours de vous convaincre du contraire. Mais il y a un moment, je dis bon, stop, ça va, il faut que je le fasse. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais c'est en effet. Donc j'ai cette chance, je dirais, de ne pas vouloir rentrer dans les combines commerciales et éditoriales. C'est pour pour ça que je prends mon temps et tout ça. Mais si jamais on est contraint par l'éditeur et par les contraintes commerciales et autres, c'est un travail de dingue de toute manière. Je confirme, oui, c'est affolant.
Bon, en tout cas, si on veut en voir un peu plus sur votre travail, plus que cette affiche des Imaginales, il faut aller à la maison du Bailli, hein, puisque
alors, il y a l'exposition. Il y a une exposition sur 4 jours, en profitant parce que j'expose jamais. Donc
c'est vraiment exceptionnel.
C'est le moment où jamais, d'ici là qu'il y en a une prochaine, il se passera encore au moins 10 ans. voilà, quoi, tout est dit, hein, maintenant il faut voir. Mais oui, c'est bien, c'est super bien.
Alors que le travail de nos trois camarades, c'est sous la bulle que ça se passe, je voulais qu'on finisse. En parlant de ce que vous êtes en train de faire, Laurence, Elvire et Fabien, puisque vous travaillez sur la fresque qui traditionnellement est réalisée pendant le festival. Est-ce que chacun travaille dans son coin ou est-ce que vous vous êtes concerté avant?
Laurence, le pivot central.
Oui, en fait, moi j'ai su que j'étais sur la fresque depuis novembre l'année dernière. Et après, j'ai su, en mois de février, je crois, les trois autres personnes qui étaient là. Et puis, apparemment, l'année dernière, au niveau de la fresque, heureusement, apparemment, vous aviez quand même sorti quelque chose de très sympa, mais vous n'étiez pas vraiment concerté, je crois.
Enfin, on n'avait pas eu le temps,
tout à fait. Vous n'aviez pas eu le temps, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, comme cette année, on a le temps, que je sais qui c'est, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais aller écrire à tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on a vraiment fait ça à quatre. On a commencé à dire, tiens, est-ce qu'on a envie de faire le paysage? Est-ce qu'on fait une forêt ou une cité? Enfin, donc, il y en a un qui a parti sur l'idée de la forêt. Après, on disait peut-être les légendes arthuriennes ou voilà. Donc, on a commencé à réfléchir au personnage. Et à chaque fois que quelqu'un avait une idée, un croquis, on se le renvoyait. Quelqu'un rajoutait de la couleur. Elvire nous a fait un petit speed painting pour nous mettre un peu l'ambiance colorée. Ensuite, on s'est dit, bon, là, nos personnages, ils sont un peu sur le même plan, donc il faudrait essayer de changer. Enfin, voilà, on a vraiment pensé tous les quatre. Et du coup, on espère, quand on aura fini, mais notre croquis est plutôt sympa, voilà, composé sympa.
Mais alors, on a parlé, là, depuis le début de la relation avec d'autres personnes qui ne sont pas des illustrateurs. Comment est-ce qu'on s'entend entre illustrateurs? Est-ce que c'est facile de faire finalement coïncider vos imaginaires, puisque c'est aussi le thème qui est le nôtre ce soir?
Moi, c'est super facile à la fresque parce que pour l'instant je suis le seul mec, donc juste de mes bras. Je profite que Julien soit pas là. Donc, sans rire, on a la chance aussi, alors que j'imagine que c'est pareil dans tous les milieux, d'avoir des égos à peu près normaux. Donc on s'entend plutôt bien. On n'a pas de dispute de. Mais en fait, on avait dit tu faisais 30 cm là, pas 31. Enfin voilà, je crois qu'on s'entend très bien. On barbouille pour l'instant dans notre coin, on dépasse un peu à droite à gauche, on fait des raccords. Et comme disait Laurence, on a construit l'image à 4 déjà, donc ça soude. Et puis on apprend aussi à se connaître, même si en l'occurrence, on peut se connaître ailleurs, mais face à la fresque, quoi.
Juste la fresque, il y a un côté super récréatif aussi et ludique. Donc déjà à la base le truc est rigolo, donc quand on a l'occasion de faire un truc comme ça rigolo, en général on...
Si vous jetez les pots de peinture à la figure, c'est pour rire, maintenant.
Ouais.
On le sent. Mais voilà, effectivement, ça vous apprend des choses aussi sur vous-même, de travailler comme ça, en collaboration les uns avec les autres.
Ah bah oui, ça c'est chouette, hein. Moi je me souviens l'année dernière... Julien, quand il a monté sa fresque, il a fait, il avait une technique que j'avais jamais vue, quoi. Il fait comme ça, parce que moi je suis pas très, enfin, comme justement, je suis dans la bande dessinée, je suis super d'entrée, la peinture et voilà, c'est pas, je suis pas super à l'aise et tout, donc de voir quelqu'un qui en fait très très bien, de voir comment il procède. De voir d'ailleurs comment tout le monde procède, des petites trouvailles, on se dit « Ah tiens, ça, c'est une bonne idée ça !» Ou alors c'est tout simplement « Ah tiens, c'est comme ça qu'on fait !» Donc ça c'est vachement chouette.
Bah, on va inviter le public à venir vous voir, à venir discuter aussi avec vous près de la fresque, au fond de la bulle du livre, hein, et puis de voir évidemment l'avancée de votre travail. Vous y retrouverez Laurence Péguy, vous y retrouverez Elvire de Coq, Fabien Fernandez et puis Julien Delval qui arrive bientôt.
Si tout va bien, demain, il arrive en hélicoptère.
Il sera parachuté. tu dissipes des images.
J'ai mon golfière que Hervé avait prévu depuis le début.
Et puis ben, Hervé, lui, vous le voyez grâce à l'affiche pendant toutes ces journées, et puis également donc, à la maison du bailli, hein, vernissage et tout à l'heure, et puis à voir pendant ces 4 jours pour découvrir l'univers et l'imaginaire de ces illustrateurs qui étaient avec nous. Merci beaucoup.
Il y a Alain Brion.
Et Alain Brion, oui, mais. Comme vous étiez là, mais c'est vrai qu'il y a, si vous voulez voir, il y a pas mal de choses. Si vous aimez les illustrateurs, il y a beaucoup de choses. C'est dans le petit carré qui est tout en bas de la page du dépliant. Il y a tout ce qu'il vous faut dessus. C'est la Bible hein, pour suivre tout ce qui se passe pendant 4 jours. Allez, finalement, dans les imaginales. Merci à tous.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Ah, c'est compliqué ça. C'est le truc.
De toute façon, moi je préférerais pas trop parler parce que étant donné que je suis pas trop motivée dans les tout ça, moi je travaille dans le film.
Mais,
quoi, sur
bah, mais c'est une autre expérience. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas complémentaire.
C'est ça les contraintes, ouais, je connais. Je travaille pour Universal et.
Plutôt ce que vous avez apporté.
Ouais,
on va venir le récupérer. Et si vous pourriez éviter peut-être qu'il y ait des mélanges. Parce que je pense que ceux qui